Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et merci d'être avec nous en cette fin de week-end, fin de dimanche, 18h. J'espère que ça roule bien pour vous. Salut Pierrot.
Salut Malolo, comment ça roule?
Eh ben moi ça roule plutôt pas mal. On a beaucoup beaucoup d'actualités évidemment, on s'en rend compte hein, autour de l'automobiliste, de la route, des carburants. Enfin alors là, on est au centre de ce qui se passe dans le pays quoi.
Ouais, on va décrypter hein, la semaine prochaine d'ailleurs toutes ces annonces. On va revenir dessus, la tête bien reposée, parce que cette semaine, on a décidé de décrypter une autre information, celle des annonces d'Emmanuel Macron. Attention, pas sur les carburants. Là, on va partir sur les annonces, notamment sur quels véhicules demain. Les annonces des millions de véhicules électriques qui seraient produits en France. Super, mais il n'y a pas de prise. Donc, on va peut-être reprendre le problème à la base. Bref, on va essayer de creuser un petit peu tout ça avec notre invité Malolo.
Et puis, en deuxième sujet également, eh bien, nous allons parler des voitures électriques. Ces voitures électriques qui, peut-être pour les loueurs de voitures, seraient de l'ordre de 75% d'ici 2024. 100% pour certains loueurs de voitures en 2027. Est-ce la préannonce d'une électrification totale de notre parc roulant? On en parlera également avec nos invités.
Et puis, ça vous en a savez, l'air quand même. Hein.
C'est fou. Hein.
Ça en a l'air, hein. C'est marrant. Est-ce que tu te souviens, Malolo, il y a quelques années, quand on était jeune et beau, on l'est toujours évidemment, surtout toi.
Jeune surtout.
Mais est-ce que tu te souviens quand on parlait de véhicules électriques il y a 6 ans? On parlait d'un fantasme. On parlait de quelque chose qui n'existait pas trop, avec une autonomie misérable. C'était une catastrophe. Et là, ça y est, il y a une espèce d'électrification qui se met en place. Je ne crois pas encore à l'électrification totale, je crois au mix énergétique, on va en parler. Les loueurs qui passent au 100% électrique, bon, je me dis qu'il ne va pas falloir vouloir aller très très loin, parce que sinon ça va poser problème.
Et évidemment, à la fin de notre rendez-vous, vous avez la parole pour venir échanger avec Pierre Chasseret, qui mettra évidemment sa casquette, qu'il a toujours avec lui d'ailleurs, hein, de délégué général de 40 millions d'automobilistes. Tout ce qui vous énerve sur la politique routière, tout ce qui se passe en ce moment, vous automobilistes, vous venez en parler avec l'ami Pierre. Ce sera aux alentours de 18h50. Pour l'heure, c'est parti, ça roule avec vous le dimanche à 18h.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Évidemment. Vous pouvez réagir aussi à nos sujets en nous appelant au 0826 300 300, ou en nous retrouvant sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, le président de la République Emmanuel Macron, Pierre, a présenté un plan industriel qu'il a nommé France 2030, d'un montant de 30 milliards d'euros investis pour l'automobile. Il s'agira de produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides à l'horizon 2030 et d'amorcer un changement culturel.
Oui, alors moi il y a un truc déjà qui m'a échappé, hein. on va en parler avec notre invité. Bonjour Fabrice Godefroy.
Bonjour.
Bonjour. Donc,
alors Fabrice Godefroy, pareil, plein de casquettes.
Expert hein. Mobilité, 40 millions d'automobilistes.
Oui, et puis aussi le boss d'IDLP qui est le numéro 1 de la pièce détachée indépendante en France. Fabrice, moi j'ai entendu 2 millions de véhicules électriques et j'ai entendu derrière produits en France. Alors déjà il y a deux choses qui me choquent, c'est 2 millions de voitures électriques produites, mais en France. On est capable, en France, de produire encore des voitures ?
Bah, le problème actuellement, c'est un changement radical. D'ailleurs, il l'a dit dans son discours, il a un discours assez amer hein, sur le bilan de ces 30 dernières années dans l'industrie automobile, parce que effectivement, quand on voit que, par exemple, la Dacia Spring, qui est la petite voiture électrique,
la sans voiture bande du d'autonomie. Peuple électrique,
oui, et puis elle est surtout 100% fabriquée en Chine, quand on voit que les petites Smart électriques, aujourd'hui, qui sont fabriquées sur le territoire français, en Moselle, en Bac, vont partir en Chine l'année prochaine. Donc, effectivement, je comprends très bien. Je pense qu'il a la vision évidemment logique. On sait que la Commission européenne va nous lancer à fond sur les véhicules 100% électriques. Pour l'instant, c'est un peu le néant. Je rappelle quand même que 80% des batteries des voitures électriques sont fabriquées en Asie, alors que c'est 40% de la valeur intrinsèque d'une voiture, donc c'est extrêmement important. Et comme il l'a dit, d'ailleurs sa phrase, c'est un très bon résumé, il a dit, on va quand même pas, surtout dans un pays comme la France, qui est un pays quand même constructeur, rouler plutôt vert, entre guillemets, sur le véhicule électrique, mais vert, avec des voitures qui ne seront plus produites sur le territoire français. Donc, le constat actuel, c'est celui-ci.
Ça part d'un bon sentiment, entre guillemets, même si on ne fait pas du sentiment.
C'est un vœu pieux, mais il a complètement raison.
Et puis alors, on décrypte un petit peu, véhicule, quand il dit véhicule électrique, il parle aussi d'hybride.
Tout à fait, hybride rechargeable, à mon avis.
Ouais, mais, et c'est là où les mots ont une importance. C'est qu'on se dit, bon, véhicule électrique, nous, on pense tous, dès qu'on nous dit véhicule électrique, on pense forcément au véhicule 100% électrique. Non, pas du tout. Dans l'esprit du président, on va vers le véhicule électrifié. Et une gamme
donc,
électrifiée.
Hydrogène aussi, alors?
Ben, l'hydrogène peut être considéré dans l'électrique, puisqu'on alimente une pile à combustible, c'est une motorisation de type électrique. Mais je ne pense pas qu'on en produira 2 millions en France d'ici 2030. Plutôt 2, mais pas 2 millions. En tout cas, sur le véhicule électrifié, il y a l'hybridation. Mais l'hybridation, là où je ne comprends pas, et où j'ai besoin qu'on m'éclaire, je suis un gars très basique et parfois très bête. Il y a un truc que je ne comprends pas. Parfois. D'un côté... Parfois. Des fois, il y a une lumière au fond de la cave, regarde. Là, on a 2 millions de véhicules électrifiés qui vont être produits. Dedans, une majorité d'hybrides, fatalement. Les hybrides sont touchés par les zones à faible émission. Et donc, n'auront plus le droit de rouler dans les grandes villes. Donc, en 2030, on produit des véhicules hybrides, selon le président Macron, mais les zones à faible émission vont sortir les véhicules hybrides du parc. Je comprends pas.
Alors ça, c'est un autre sujet, effectivement, quand on regarde le système des vignettes critères, qui est obsolète d'ailleurs.
Mais excusez-moi, parce qu'une critère hybride, on est sur un quand on est en essence hybride.
Oui, tout à fait.
Mais on n'est pas encore sorti des ZFE quand on est un
oui,
en
mais
critère
par exemple,
1.
Quand on prend le Grand Paris, le Grand Paris est Paris.
Par exemple. Hein.
Elle a annoncé plus d'essence en 2030. Plus diesel en 2024, ouais. Plus d'essence en 2030. Mais quand on regarde le schéma, c'est plus de vignettes critères 1. Et comme les hybrides sont dans la vignette critère 1, logiquement, par rapport à ce système-là, les hybrides sont concernés.
Ça, c'est qui a annoncé ça?
Ah bah le Grand Paris, Paris, effectivement. Ah ouais.
Ça, c'est et annoncé. Et ça sera sur toutes les zones, normalement, oui. ZFE, il y en a 11 à venir sur le
alors, territoire
français.
Alors, il y a 11 grandes villes en
11
France
métropoles,
et aux métropoles,
en fait,
et puis après, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui seront touchées, mais avec des agendas différents.
Mais si on revient sur la question vraiment de notre sujet, alors, puisque ce président de la République est Emmanuel Macron qui aimerait 2 millions de véhicules électriques et hybrides en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même très très peur que tout se fasse à l'extérieur de notre pays, en Asie. Et on a posé la question, évidemment, au début de l'émission. On a Jean-Pierre qui nous appelle de Montpellier pour nous donner son avis aussi. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Laurence, bonjour Pierre et bonjour votre invité.
Salut
oui,
Jean-Pierre, j'arrive très vite, vous bougez pas, j'arrive dans quelques heures à 7.
alors vous pouvez passer à la maison, il y a toujours de bricoles à faire. Hein.
À bricoler, non, mais s'il y a des alors, trucs à manger, à boire, on le vient.
Sur le sujet, Jean-Pierre, vous pensez que on peut vraiment tenir avoir un vrai rôle dans cette course sur la voiture électrique qui est quand même très en Asie en ce moment?
Je pense que vous plaisantez là.
Ah. Vous n'y croyez pas du tout en fait.
Fabriqué en France? Mais qu'est-ce qu'on fait en France? Plus rien. Plus rien. Les Chinois sont partout. Non, c'est même pas la peine. C'est un doux rêve qui caresse Manu, là. Hein.
C'est terrible parce qu'au moment où Jean-Pierre s'exprime, je cherche et j'ai envie de vous contredire, hein, Jean-Pierre. Et je cherche et dans ma tête, je me suis dit nanotechnologie, ouais. Biotechnologie et je me dis mince, non, on a été battu. Ouais. Et en fait, je me dis que Jean-Pierre, bah, vous avez pas tort. Et surtout, il y a une autre question. Vous vous souvenez des annonces, alors, du candidat Macron de l'époque? C'était de faire de la France le pays numéro 1 de la batterie électrique. Bon, j'ai toujours pas vu une batterie, moi.
Fabrice Guillotroy, la réaction de Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, vous voulez dire
faut lui dire, vous vous rappelez de ce que j'ai connu. Oh, Manu, descend un peu, hein. Qui voit dans la rue, quoi.
Fabrice, est-ce que vraiment en France, on ne peut plus construire parce qu'on construit des choses, quand même.
Le constat, il l'a fait lui-même. Il l'a même appelé cruel vis-à-vis de l'industrie automobile ces derniers temps. Donc, c'est vrai que depuis 30 ans, on n'est pas dans le coup là-dessus. Les stratégies ont été vraiment sur l'exportation de notre industrie, etc. Mais il est évident que si on veut reprendre en main l'industrie française, il va falloir produire des batteries électriques. Alors, il y a des projets, quand même. Il y a 3 projets de gigafactory qui vont se faire, notamment dans le nord de la France, sur du justement de la fabrication des batteries, bon, plutôt l'assemblage. Mais la question qu'on peut se poser, je pense que l'ambition, on peut peut-être y arriver à le faire, parce qu'on a des projets. Par contre, il y a plusieurs choses qui, à mon avis, ont posé un problème. Bon, déjà, la Chine est en pole position sur tout ce qui est matière première, sur l'extraction du lithium et du cobalt et le raffinage. Ça, on ne va pas le faire en France. Donc, de toute façon, on sera client de la Chine par rapport à ça. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir être compétitif par rapport à ça.
Jean-Pierre, ça vous fait rire.
Oui, on sera compétitif. Est-ce qu'on sera capable de produire des batteries électriques moins cher que l'Asie? Alors peut-être qu'avec des nouvelles technologies, et justement c'est là où je pense qu'ils essayent de jouer les constructeurs, c'est sur une avancée technologique de recherche et développement sur les batteries pour voir justement avoir une meilleure autonomie et tout. Donc si effectivement on arrive à produire des voitures, des batteries qui sont technologiquement plus avancées, peut-être qu'on pourra pas gagner la bataille.
Jean-Pierre a rigolé, ouais.
Non, c'est un doux rêve là.
Ah, vous n'avez pas du tout confiance, vous?
Ah non, mais ça fait combien, 4 ans qu'ils nous promènent là? Vous pensez qu'ils vont faire
à pied,
dans les années suivantes?
Mais sans parler de politique et de l'homme politique et du président de la République, est-ce que vous pensez qu'en France, on est incapable de réagir et de créer nous-mêmes, soit nos batteries, soit de continuer le développement? Enfin, vous voyez la question que je pose?
Je pense que les Chinois ont beaucoup plus de moyens, sont beaucoup plus courageux pour avancer dans ces systèmes-là. Hein.
Moi, ce que j'entends chez vous, Jean-Pierre,
le problème, il est là. Hein.
Ce que j'entends dans votre discours, j'ai la sensation qu'au-delà du président Macron, il y a une certaine... de manière amusée, parce que vous êtes sympa avec ça, sans, mais il y a une voix désabusée. Mmh. C'est-à-dire qu'on sent comme une certaine lassitude face à des annonces, des messages qui ne viennent pas, qui ne changent pas grand-chose à nos vies. J'ai l'impression de sentir... c'est la réflexion que je me suis fait l'autre jour, je regardais les sondages et je me suis dit, mais en fait, le plus grand parti de France, il ne faut pas oublier que c'est les abstentionnistes. Donc c'est les désabusés. J'ai l'impression que Jean-Pierre, permettez-moi, je vous classe là-dedans, un peu comme moi.
J'entends très mal, par moment ça coupe.
Ah, bah c'est peut-être, vous êtes où à Montpellier?
C'est Emmanuel, il a coupé la ligne.
Je suis à Bayargues.
Mais en tout cas, voilà, on entend...
Je suis à Bayargues, en pleine guérille.
Bon, profitez bien de la belle région.
De toute façon, Emmanuel Macron met la pression sur le dos des constructeurs en leur disant que pour l'instant, depuis 30 ans, il n'y avait pas de collaboration entre eux, qu'ils devaient être trop délocalisés. Donc, il leur met vraiment la pression et il leur dit, il faut qu'on y arrive, mais sans vous, on n'y arrivera pas.
Moi, j'y crois quand même un peu. Je me dis que ce n'est pas... C'est l'objectif 2030, de toute façon, il faut y aller.
On n'aura pas le choix.
Parce que sinon, si la France ne décide pas, à un moment donné, de prendre un leadership sur un secteur qui touche à la mobilité, on est mort. Mmh. Et ce qui me gêne encore plus, par contre, et là, je me dis, là, on va droit dans le mur, c'est que derrière, il y a une bobologie ambiante anti-voiture, anti-électrique, anti-tout ce que vous voulez, qui fait que, de toute façon, on a un frein qui s'appelle la décroissance. On a une minorité de bobos qui a décidé de faire que du vélo et du vélo cargo. J'ai encore eu un, je ne vais pas dire le mot, mais quelqu'un qui a eu une idée brillante et qui me l'a conseillé sur Twitter l'autre jour, il m'a dit, vous avez une famille avec 3 enfants, pourquoi vous achetez pas un vélo cargo pour partir faire vos courses?
Pourquoi?
Parce que je suis à 22 km du centre commercial. Voilà.
On continue d'en parler dans quelques instants. Et puis, il y a aussi une autre question, hein, c'est que si effectivement la France n'arrive pas à se relever de cela et à prendre le bon virage, il y a combien, la filière automobile emploie combien de personnes en France aujourd'hui? On en parle dans quelques instants. On continue de parler effectivement de cette question que l'on vous pose sur Sud Radio dans Ça Roule. La France est-elle capable d'être de nouveau un pays qui compte mondialement dans l'industrie automobile? On vous attend 0826 300 300.
Sud Radio Ça Roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Pour répondre au déficit de la croissance de la France et développer les filières du futur comme l'hydrogène, par exemple, l'électrique ou même l'hydrogène vert, les semi-conducteurs ou encore les batteries pour les véhicules électriques, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté un plan industriel d'un montant de 30 millions d'euros investis. La question que l'on pose dans Ça Roule ce soir, dimanche, fin de week-end, c'est la France est-elle encore capable d'être un pays qui compte mondialement dans l'industrie automobile? 0826 300 300, vous n'hésitez pas à venir nous donner votre avis.
Et on l'était.
Mais oui, on l'était. Bon, on était même un des premiers.
On a été le premier précurseur. Il y avait des centaines, des dizaines de marques automobiles en France. Elles ont toutes disparu. Panhard, Talbot, c'est plus récent, hein, mais toutes ces marques ont disparu. On n'entend plus parler. Moi, je voudrais revenir sur l'hydrogène vert, parce que l'hydrogène vert, c'est... Déjà, l'hydrogène, c'est populaire auprès des Français. Et puis, tout à l'heure, j'ai dit, je cherchais un secteur dans lequel la France pouvait avoir un rôle d'acteur, pionnier un peu. L'hydrogène, c'est le cas. On a quand même une usine Toyota du côté de Grenoble, dans le bassin grenoblois, où là, ça bosse sur l'hydrogène. Mais alors, l'hydrogène, j'ai compris. Je sais que d'un point de vue écologique... Même si c'est pas ma tasse de thé, moi je m'occupe avant tout de ce que payent au final les automobilistes. Mais bon, il faut quand même que ça soit respectueux de l'environnement. D'un point de vue écologique, l'hydrogène c'est une cata. Une catastrophe. Par contre, c'est quoi l'hydrogène? C'est-à-dire que le bilan carbone et le bilan environnemental de l'extraction et de la production d'hydrogène est dramatique. Il vaut mieux être sur du diesel ancien, vraiment, que sur de l'hydrogène.
Ah ouais.
C'est pour ça qu'Emmanuel Macron parle d'hydrogène vert.
C'est alors, quoi l'hydrogène vert?
Justement, on peut y avoir un débat là-dessus.
Attendez, expliquez-moi avant, pourquoi c'est à ce point dramatique? C'est quoi le délire?
Actuellement, 95% de l'hydrogène qui est fabriqué actuellement, qui est produit actuellement, est fait à base d'énergie fossile. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris.
D'accord.
Après, il y a l'hydrogène jaune. qui est fabriqué à base de nucléaire. Donc c'est là où Emmanuel Macron dit on a un atout en France,
avec les
c'est qu'on a 70-75% d'électricité nucléaire, donc on pourrait produire un hydrogène décarboné.
Donc,
mais pour moi qui est jaune.
Donc, le pour vert, être très clair, l'hydrogène, l'hydrogène c'est propre, c'est un hydrogène...
d'électricité renouvelable, vert.
D'accord. Oui, mais alors, l'énergie renouvelable... Alors, oh, stop, allez, temps mort. Là, ça suffit. L'énergie renouvelable, faut être très clair. Hein. Aujourd'hui, si on a un tarif d'électricité en France qu'on juge, nous, déjà trop élevé, il faut savoir que si demain, on faisait tout tourner à l'éolienne, c'est 4 fois plus cher, la facture d'électricité. Donc, il faut arrêter de nous raconter...
Au-delà de ça, c'est est-ce que l'éolien, aujourd'hui, peut fournir assez d'énergie?
Si t'en mets une sur ton toit de bagnole, mais tu passes plus les ponts. Hein.
Mais Pierre vient de toucher un point. Elle vient de toucher un point, c'est que l'hydrogène d'hiver, parce que pour moi...
D'hiver ou d'automne?
D'hiver, pardon, voilà. Bon. Le problème, c'est qu'il est 3 à 4 fois plus cher à produire que l'hydrogène gris, donc fossile. Donc c'est ça aussi le problème.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'au niveau des mobilités, déjà on sait que c'est plus cher au niveau de l'achat de la voiture. Si l'hydrogène, en plus, c'est 3 à 4 fois plus cher que l'hydrogène qu'on produit à 95% actuellement dans le monde... Ça va pas être facile.
Ça va être la voiture du bobo qui veut montrer que... aujourd'hui, il y a une voiture qui franchement, c'est une superbe voiture. Hein. La Toyota, c'est Mirai, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est le ticket d'entrée, c'est 70 000 sur l'hydrogène. Et derrière, je vous mets au défi d'aller faire le plein d'hydrogène quelque part. Moi, je passais chez Leclerc, Carrefour et Auchan, je n'ai pas trouvé d'hydrogène.
Est-ce qu'on peut parler vrai un peu sur Sud Radio, là, dans sa roule? Il y a plein de choses qui parce que sur Sud Radio, on parle vrai tout le temps.
Allez, pose des questions, on va y aller, cash.
On est en train de nous prendre quand même pour des blaireaux, excusez-moi l'expression, parce qu'on nous survend l'électrique, on n'est pas encore complètement prêt. On nous survend l'hydrogène en ce moment, il y a des campagnes publicitaires partout.
C'est inaccessible financièrement.
C'est inaccessible financièrement, c'est beaucoup plus polluant, a priori, c'est moins sympa.
On va être très clair, si demain
mais
tu veux,
mais
Lolo.
Non, c'est pas ça, mon loup,
si
c'est
tu
pas
veux.
Ça, la question c'est, quand est-ce qu'on arrête de nous prendre pour des...
Après la présidentielle pendant 2 ans.
Pourquoi, est-ce qu'on nous pousse?
Moi, il y a une phrase qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, et il a raison là-dessus. Il a dit, une grande nation de l'automobile comme la France ne peut pas rouler vert avec des voitures qui ne sont plus produites en France. Le problème, c'est que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et en plus, on est en train de le sponsoriser. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait des bonus principalement sur des voitures électriques, dont lui-même dit qu'ils ne sont plus produits en France.
Oui.
Donc on sponsorise qui ? Eh ben l'Asie, la Chine et nos concurrents. Donc moi c'est plutôt ça qui me choque, c'est-à-dire que le constat actuel qui fait et sur lequel elle a complètement raison, on est en train de le sponsoriser actuellement.
Moi,
donc
ce qui
on
me gêne,
a mis la charrue en volée bleue, c'est-à-dire qu'on pousse du véhicule électrique.
Mais au-delà de la politique.
Moi ce qui me gêne c'est la schizophrénie, c'est-à-dire que d'un côté on nous dit oui il faut décarboner, il faut plus de voitures diesel, il faut plus de voitures essence, et en même temps on nous dit oui mais il faut sortir progressivement de l'énergie nucléaire. Ah bon ? Et comment on fait ? Si demain, on veut 40 millions de voitures électriques ou hydrogène dit vert, ben la production électrique, il faut quand même la faire. La production électrique, c'est pas des gars qui pédalent dans la cave. C'est aujourd'hui, l'énergie française, c'est l'énergie nucléaire. On ne peut pas être favorable aux véhicules électriques dit plus propres, en tout cas, et en même temps être opposé au nucléaire. Ça me rappelle, moi j'ai l'impression d'être dans une schizophrénie avec Europe Écologie Les Verts dans le milieu. Ils vous disent qu'il faut des bagnoles électriques, mais il ne faut pas de nucléaire.
Concrètement, ça veut dire quoi si le plan annoncé pour France 2030 de par Emmanuel Macron fonctionne? Ça veut dire qu'on va avoir des usines poussées, Fabrice Godefroy, qu'il va y avoir des investissements forts en France.
Alors,
qu'on va vraiment se donner les moyens, 30 millions. Que dit le CNPA, qui est quand même le Comité National des Professionnels de l'Automobile? Ils vont jouer aussi, enfin.
Alors justement, ça, il l'a dit. C'est-à-dire que l'État doit mettre des sous, hein, évidemment, dans tout ce projet-là. Il doit s'investir, mais il l'a dit lui-même, Emmanuel Macron. Il a dit les constructeurs, évidemment, doivent participer à tout ça et avoir la bonne stratégie, ce qu'ils n'ont pas eu pendant 30 ans. C'est lui-même qui le dit, hein, il les a quand même pas mal critiqués par rapport à ça.
Il avait raison ou pas ?
Le problème, non. Pour moi, non. Je vais te répondre très clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir des changements de cap réguliers, leur dire, voilà, il faut que vous fassiez maintenant des carburants décarbonés, avoir des normes extrêmement restrictives, et puis après, du jour au lendemain, tu investis là-dessus. Et puis derrière, on dit, bah non, maintenant, c'est plus du tout le véhicule thermique décarboné qu'on veut. Maintenant, c'est du véhicule 100% électrique. Donc, les changements de cap sont quand même extrêmement extrêmement compliqué à suivre. Donc les constructeurs, voilà, ils suivent la politique. Carlos Tavares l'a dit, de toute façon, on lui impose le véhicule 100% électrique. Bon, voilà, donc ils y vont, mais bon, on ne peut pas leur reprocher non plus d'avoir des stratégies qui changent toutes les 3-4 ans, quoi. Donc c'est un peu compliqué.
Et pour l'automobiliste, Pierre, c'est pareil, la problématique, ça va être évidemment pareil. Le porte-monnaie aussi, parce que le choix, on est complètement paumé, on ne sait plus selon où on habite. Moi, ma maman qui a 80 ans me dit, Malolo, est-ce que je peux continuer de venir te voir avec ma voiture? Est-ce que je peux encore rouler avec sur la région?
En fait, nous, on est dedans. Moi, c'est mon métier au quotidien. Fabrice Godefroy aussi. Donc, nous, on est au courant de tout ce qui se trame, etc. Je mets à la place de celui qui nous écoute, qui écoute sa roule. Il veut de l'information claire parce qu'il est habitué à ça de nous. Et aujourd'hui, certains se disent, mais qu'est-ce que je dois acheter comme voiture? Est-ce que je vais avoir le droit de rouler? Est-ce que d'ailleurs, je vais continuer à avoir du carburant accessible en prix? Est-ce que les prix ne vont pas s'envoler? Est-ce que le cours du baril ne va pas monter au-dessus des 100 dollars?
Ça fait mal en ce moment.
Mais non, mais ça va monter encore. Les prix du baril, il va monter.
Vous savez que même moi, enfin excusez-moi, je ne vais pas parler que de moi, ça n'a pas d'intérêt, mais je fais hyper attention aux kilomètres que je fais aujourd'hui.
Tout le monde.
C'est-à-dire que je laisse le plus en plus souvent la voiture.
Sauf que ça fait du bien aujourd'hui, quand on est en banlieue, périphérie d'une grande ville... Pourquoi pas, on peut se débrouiller. Mais il y a 80% de nos trajets qui sont des trajets totalement contraints. Ce qui me gonfle, moi, mais vraiment désolé, mais ça me gonfle, c'est qu'on dise toujours, j'ai entendu ça depuis 3 semaines, oui, le déplacement essentiel en voiture pour aller au travail. Mais depuis quand le seul déplacement essentiel de nos vies, c'est le travail?
Mais
bien sûr que non. Emmener ses gamins à l'école, aller dans les services de santé, aller aux activités périscolaires, aller faire ses courses,
tiens. Aller au restaurant avec les amis à 25
kilomètres,
c'est aussi économique. Ça veut dire qu'on est en train, à cause de cette hausse de carburant, et puis on va accueillir Samy dans quelques instants, de recréer un autre confinement.
C'est ça.
Un confinement lié à
d'ailleurs,
un manque de mobilité.
Très intéressant là-dessus, j'ai regardé quand même, parce que moi je suis un petit chenapan, j'aime bien regarder ce qui se passe, et lors des confinements, j'ai regardé ce qui était considéré comme essentiel en France. Oh! Ah bah tu devineras jamais, Malolo. Eh bah les stations-service, c'était essentiel. Alors c'est marrant, c'est un bien de première nécessité quand on le veut, et puis quand on en le veut un peu moins, c'est moins un bien de première nécessité. En tout cas, on se fait matraquer à coups de taxes depuis maintenant des années, à plus de 60% de taxes sur les carburants, c'est inadmissible.
Samy,
il faut que durablement... Ad vitam aeternam, on pense à baisser les taxes sur le carburant.
Voilà. De toute façon, ça fera partie d'un énorme sujet la semaine prochaine. Voilà. On va attendre, voir un peu tout ce qui se passe aussi en ce début de semaine. Et dimanche prochain, on en parle de cette hausse des carburants. La France est-elle capable d'être de nouveau un pays qui compte mondialement dans l'industrie automobile? C'est la question que l'on vous pose ce soir, on est dimanche soir. Samy est avec nous. Bonjour Samy.
Bonjour Sud Radio.
Merci d'être avec nous, on vous
Salut,
écoute.
Samy.
Avec plaisir, hein. C'est moi qui vous remercie de nous donner la parole. Pour répondre à la question, oui, la France peut, on a les moyens. Le Made in France est connu en plus en termes de qualité. Donc, après, il faudrait que, au niveau fiscalité, l'État, commence à baisser les charges pour motiver les sociétés et puis toutes les structures de recherche à se mettre en place, je dirais.
Ouais. Pierre? Fabrice.
Je pense, hein.
On l'a dit tout à l'heure, il va falloir que... Alors, on n'a pas le choix, il faut y aller, parce que de toute façon, la Commission européenne va nous mettre la pression, comme tous les autres pays européens d'ailleurs, là-dessus, sur les véhicules 100% électriques. Pour l'instant, on n'est pas dedans. L'Asie a de l'avance, et en plus de ça, il va falloir être compétitif par rapport à l'Asie, et ça ne va pas être évident. Alors, il y a une phrase qui est intéressante, que j'ai relevée, moi, dans son discours, justement, qui répond complètement à ce que vous êtes en train de poser comme question. Il a dit qu'il fallait créer un mécanisme d'ajustement aux frontières. Sur le bilan carbone. Donc, d'après ce que je comprends de ce que ça veut dire qu'il va falloir produire vert en France. Et si on exporte ou on importe plutôt des véhicules, par exemple, qui sont été fabriqués, par exemple, en Chine, donc avec de l'électricité charbon, parce que quand on fabrique des batteries électriques
avec
des centrales à charbon, là, il va falloir taxer pour que ça soit moins compétitif pour entrer sur le territoire français et l'Europe. Donc, ce mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est peut-être ce que Emmanuel va faire. Mais on peut se poser la question du libre-échange.
Non mais oui, il y a ça. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner, ça? Est-ce que ça peut ralentir les pays vous voyez, est-ce que si on surtaxe les voitures qui arrivent de Chine, dont les batteries ont
encore
été faites...
Encore des taxes.
Oui, mais c'est ça. Il y a un moment,
La France, non mais stop. La France, c'est le pays numéro un champion des taxes. Il y a un moment où on doit pouvoir prendre le leadership par notre production, notre capacité à donner un avantage fiscal à ceux qui... font en France, ceux qui font la France, ceux qui créent de l'emploi en France, ceux qui génèrent de l'économie en France, et arrêtez de penser à taxer ce qui vient de l'étranger.
Non,
faut pas surtaxer, faut sous-taxer.
Moi, ce que j'entends de la part d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de mettre comme une limite, c'est-à-dire que si on si vous faites vos voitures à l'étranger, en Asie, machin, et ben sachez que pour arriver sur le territoire français, on donnera la priorité aux voitures faites en France par rapport aux vôtres qui seront taxées à la frontière.
Mais tu vois, il faut un avantage fiscal, parce que là, tel que c'est pris, ça veut dire qu'on va surtaxer un produit qui vient de l'étranger. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire accéder. Au contraire, on va encore augmenter le fossé qui sépare l'automobiliste de l'achat d'un véhicule.
On va le guider vers un achat plutôt français.
Ouais, mais plutôt français, il coûtera plus cher, donc ça vaut pas le coup.
Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est sur ces nouvelles technologies sur lesquelles il va falloir avoir un coup de main à ce niveau-là, c'est créer des zones franches, peut-être, avec des usines, avec des zones franches, ou une défiscalisation, ou une fiscalité qui soit plus adaptée pour toutes ces usines, justement, qui pourraient être compétitifs par rapport à l'Europe et au monde.
Tu sais, ce qui fout en l'air les mécaniques d'achat, etc., c'est que la France, c'est un millefeuille de taxes. On les empile les unes sur les autres. Bim, 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 taxe sur la taxe. Et j'invente une autre taxe pour couvrir la taxe qui n'était pas bonne. On se retrouve avec tellement de millefeuilles qu'on n'y comprend plus rien.
Oui, mais là, ce n'était pas une proposition si ridicule que ça pour protéger. C'est un peu du protectorat, en fait, sur le
faisons l'inverse. Faisons plutôt l'inverse. Une préférence fiscale dans le sens où on va détaxer ce qui est produit en France, on détaxe de manière rapidement à rendre plus compétitif.
C'est bien aussi. D'un autre côté, pour répondre à ça, les prochaines normes. Et après, vous savez qu'il y a des normes sur les véhicules thermiques. Oh, mais il va y avoir des normes aussi sur le véhicule 100% électrique. Et les normes vont être calculées par ça. Justement, où elles ont été fabriquées, avec quelle électricité. Est-ce qu'il y a du renouvelable dans les batteries? Donc, de toute façon, les prochaines normes sur la batterie électrique et les voitures électriques seront justement avec ce genre de critères.
Et ça augmentera le prix d'achat des véhicules électriques.
Et comme l'électricité augmentera aussi, parce qu'on pas passer de 45 milliards d'euros de taxes sur le carburant en France, donc il faudra bien les récupérer quelque part.
Si les dieux de la radio nous confèrent d'exister encore en 2030 avec sa roule, on aura largement le temps d'en parler. Allez, merci beaucoup Fabrice Godefroy.
Merci
Je vous propose
beaucoup.
De rester en notre compagnie, car dans quelques instants, nous allons évoquer un autre sujet. Merci à Samy d'avoir appelé Sud Radio 0826 300 300 et d'être intervenu. On va évoquer les loueurs des voitures qui commencent à penser vraiment leur flotte de voitures à louer en 100% électrique. Est-ce que vous êtes plutôt partant? Et est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un gros changement culturel sur la voiture dans le monde en général?
Mais est-ce qu'on ne va pas avoir des voitures en panne parce qu'il n'y a pas de borne?
Allez,
à tout de suite.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Seriez-vous prêt, et vous peut-être vous l'avez déjà fait, de louer une voiture totalement électrique chez un loueur?
Mais je me dis pourquoi pas, parce que je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent, avant de se lancer sur l'achat d'un véhicule électrique, pourquoi pas le tester? Le meilleur moyen de tester, c'est peut-être de louer, non?
On parle de cette évidence. Pardon, sachez qu'en 2024, la flotte de véhicules de location courte durée chez LeasyRent, qui est le leader de la location de voitures en Italie, représenterait 75% de véhicules électriques, et ils annoncent 100% de véhicules électriques chez le même loueur d'ici fin 2027. Est-ce le début d'un vrai changement vers le tout électrique? Parce que quand les loueurs s'y mettent, ils sont assez représentatifs.
Ouais, mais on a toujours dit que ça allait commencer par les professionnels, de toute façon l'électrification.
On accueille Guillaume Lemouroux qui est chef de projet chez LeasyRent, leader donc en location de voitures et qui est avec nous en Zoom, et c'est son leader en Italie. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Bonjour Guillaume. Alors, changement brutal, 100% électrique, bon, très bien. Vous n'avez pas peur de vous dire peut-être que certains usagers vont peut-être rechigner à venir vers ce type de véhicule, ou au contraire, vous sentez l'engouement et vous vous dites « Oula, ça sent bon, ça flaire bon et on peut peut-être faire un coup parce que ce sont les nouvelles attentes des automobilistes ».
Clairement, on est sur une nouvelle attente des automobilistes d'avoir des véhicules électriques. On a fait le pari chez LeasyRent de suivre cet engouement avec une flotte de plus de 1000 véhicules électriques ou hybrides déjà disponibles dans toutes nos agences, les Leasys Mobility Store. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une peur, il y a une certaine réticence. Vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on va réussir à recharger notre voiture?
Bah oui.
Et ben nous, on a travaillé un peu sur toutes ces réticences c'est surtout ces freins qui, en fait, se libèrent parce qu'il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui.
Ben, je vais vous poser deux, trois questions. Alors déjà, la première, c'est que j'ai remarqué que sur les bornes de recharge électrique, alors j'ai testé un véhicule électrique pendant 4 mois, sur les bornes de recharge électrique, c'est comme les anciens chargeurs de téléphone portable, c'est pas toujours les mêmes câbles qu'on branche. Donc, ce qui fait que, pour faire simple, si vous avez un certain véhicule électrique, c'est pas garanti que vous allez pouvoir vous charger sur une borne. Ça, c'est le premier point. Donc, je voudrais savoir comment on envisage aujourd'hui la formation pour les automobilistes qui viennent chez vous, parce qu'en plus de ça, non seulement les points de charge correspondent des fois pas au véhicule, mais en plus de ça, souvent, il faut d'abord s'être au préalable enregistré pour pouvoir bénéficier de la borne, avoir une carte, et puis qui paye, comment ça fonctionne, parce que ça coûte extrêmement cher, les bornes électriques, notamment sur autoroute. Comment vous allez faire face à toutes ces questions? C'est vraiment une nouvelle éducation
et
lorsqu'on arrive au volant.
Est-ce que la location de ce type de voiture est plus chère qu'une thermique classique?
Oui.
Alors, il y a beaucoup de questions.
Oui, c'est pour ça qu'on vous a invité.
Voilà, on va prendre 2 heures ensemble.
Nous, on veut bien.
Allez-y.
Non, pour répondre à la première question, la dernière question, à savoir, est-ce que c'est plus cher de louer une voiture électrique qu'une voiture thermique? Aujourd'hui, chez Leasys Rent, on propose, nous, la Fiat 500 électrique, juste pour une journée, avec le kilométrage limité, c'est 35 € par jour. Si vous comparez ça à un autre loueur, ou même chez nous à d'autres offres, on va être sur un véhicule, la Fiat 500 électrique avec le haut de gamme, juste 35 €, alors que on pourrait tout à fait mettre à disposition la même Peugeot 208 ou la même Opel Corsa pour le même prix. Bonus étant chez Leasys Rent, la recharge est gratuite sur nos bornes. Et aujourd'hui, on développe notre réseau de bornes dans toutes nos agences en France.
D'accord, donc ça veut dire que celui qui vous loue un véhicule électrique, s'il est certain de trouver une borne Leasys Rent, hein, parce que voilà, il ne paiera pas ses recharges.
Ce qui est certain, c'est que l'autonomie des véhicules électriques, elle est en train d'augmenter. Aujourd'hui, on est sur à peu près 350-400 km sur Fiat 500 électrique.
Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. On est jusqu'à 300 et quelques kilomètres. Mais jusqu'à, ça veut dire que si quelqu'un va sur autoroute, il va consommer sa batterie 2 fois plus vite. Donc, il va faire la moitié du kilométrage.
Je vous interromps, est-ce qu'aujourd'hui, au quotidien, vous utilisez votre voiture toujours sur autoroute, en continu, faire plus de 200 km sur autoroute?
Non, puis c'est dépendant. Guillaume, c'est dépendant aussi de la température extérieure. Si vous faites plein de petits trajets, il faut savoir que les premiers kilomètres sur un véhicule électrique sont extrêmement gourmands en énergie. Donc, non, je préfère dire la vérité, moi. C'est super, c'est un super véhicule urbain, j'adore les véhicules électriques, et effectivement les progrès sur les batteries sont immenses et c'est une réalité, mais il ne faut pas espérer plus qu'une division. Il faut prendre 60% du montant de la batterie, de l'autonomie de la batterie pour obtenir quelque chose de crédible.
Et alors,
donc si on annonce 400 bornes, c'est 250.
La question moi, que j'ai envie de vous poser, Guillaume Lemouroux, c'est aujourd'hui, dans votre offre de voitures électriques en location, est-ce que vous avez, en gros, combien de personnes en pourcentage vont plus vers un véhicule électrique à louer ou préfèrent vous dire moi je préfère une thermique? Est-ce que vous trouvez un changement aussi de culture à ce niveau-là?
Il y a toujours des besoins sur des gens qui veulent être rassurés parce qu'ils connaissent le véhicule thermique et ils le maîtrisent. Nous, ce qu'on a fait aujourd'hui pour donner encore plus envie à notre public et à nos clients de passer à l'électrique, c'est plusieurs actions. La première, on vient d'en parler, c'est la recharge gratuite sur nos bornes. La deuxième, c'est de fournir le fameux pass qui ouvre les bornes un peu partout. Donc ça, on l'offre. Tous les clients qui partent plus de 4 jours chez nous, ils ont leur carte
Guillaume Lemouroux, moi je suis d'accord avec vous, ça me paraît bien, mais j'ai juste envie de vous poser une question, c'est qu'aujourd'hui, c'est top, vous êtes sans doute l'un des premiers loueurs à assumer le fait que vous serez à 75% de votre flotte en 2024 et que d'ici 2027, vous êtes à 100%. Mais la question que je vous ai posée, c'est aujourd'hui, en 2021, au mois d'octobre, est-ce que vous avez assez de clients qui vont vers les véhicules électriques? Est-ce que vous vous trompez pas? Est-ce que c'est pas trop tôt? Voilà, soyez vraiment.
On est au début de cette grande vague des personnes qui veulent s'équiper en électrique. On les croise de plus en plus sur la route. Vous, au quotidien, moi, tous les matins, venant au bureau, il y a plein de voitures électriques, il y a plein de Fiat 500, et on a de plus en plus de demandes. Effectivement, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on se trompe. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on est des pionniers et qu'il faut encore plus démocratiser l'usage. Et c'est ce qu'on fait avec des offres en courte et des offres en moyenne durée pour tester, par exemple.
Ah, ça, c'est pas mal.
Non, ouais. Ça, c'est bien. Non, mais non, après, ça, c'est bien.
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, pour avoir testé le véhicule électrique sur un véhicule, c'est plutôt un joli joujou, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais le citer, c'était la Honda E électrique, super véhicule. Bon, alors forcément, comme tous les véhicules électriques, il m'en manque sur l'autonomie, sur la gestion de la batterie, qui part un petit peu plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. Mais par contre, c'est vraiment génial. En ville, une voiture électrique, alors c'est un luxe, hein, c'est un luxe, parce que c'est pas une voiture familiale, sauf si vous pouvez prendre une Tesla, auquel cas, là, vous avez quand même une autonomie qui tient la route, ou les dernières Mercedes, par
exemple. EQS, ouais.
Voilà. Donc là, ça fonctionne. Mais sinon, en termes d'autonomie, il nous en manque un vrai bout. En revanche, pour une solution urbaine, il faut le tester. C'est vrai que j'ai eu cette chance. En testant, on devient vite amoureux de cette motorisation, parce que c'est une autre manière de conduite, de conduire. C'est vraiment du confort, pas de bruit, et beaucoup de couple, ça démarre au quart de tour. C'est très sympa.
On a Christophe qui nous appelle du Tarn au 0826 300 300. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Salut Christophe.
Alors vous trouvez que c'est une belle solution et que de toute façon, voilà, ça y est, on y est. Même les loueurs commencent à s'y mettre à pratiquement 100% d'ici 4 ans.
Oui, c'est une bonne solution. Moi, je vais vous donner... Je ne vais pas rentrer dans votre débat, mais je vais vous donner juste mon ressenti et mon expérience personnelle. Mmh. J'ai changé donc de véhicule pour une Zoé.
Ouais.
Et je peux dire que j'ai fait quand même si on dit que l'électricité va augmenter, oui, mais j'ai 10 euros de plus chaque mois sur ma facture. Et en fait, j'ai fait énormément d'économies parce que je ne vais plus à la pompe depuis 6 mois. Et ensuite, c'est vrai, je ne fais pas de grands trajets, voilà, parce que je travaille autour de la ville d'Albi, et donc je n'ai pas besoin en fait de faire d'énormes kilomètres. Par contre, si un jour je veux, par exemple, aller dans ma famille qui se trouve en Normandie, eh bien, je vais louer un véhicule thermique. Mais à ce niveau-là, je peux considérer que oui, c'est un très intéressant d'avoir en fait ce style de vie avec ce véhicule, parce que on a en fait une certaine économie qui nous permet justement de mieux vivre.
Vous habitez en ville, vous, hein?
J'habite en fait, pas en centre-ville même, mais sur la périphérie albigeoise, et je travaille à côté de Gaillac.
Guillaume Lemouroux, vous qui êtes chef de projet chez Easy Rent, vos clients sur l'électrique sont plus des gens qui sont urbains, qui vont voyager pour l'instant en métropole urbaine, ceux qui sont intéressés par votre offre électrique, hein?
On a les deux. On a vraiment le très urbain qui vit sur la très proche banlieue. Puis on va avoir des gens un peu comme monsieur qui, ou comme moi, qui vivent un peu sur des zones périurbaines où le matin on fait entre 20 et 30 kilomètres pour se rendre sur notre bureau qui peut être en centre-ville ou à notre travail. Et c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Et monsieur faisait la remarque de quand j'ai besoin, je loue un véhicule thermique pour mes grands trajets.
Ouais.
On est là-dessus chez Lysis sur l'usage. Et je pense que c'est ça qui est important par rapport aux véhicules électriques, c'est que vous en avez un usage pendant un mois, deux mois, trois mois, huit mois dans l'année, et puis sur des périodes un peu plus exceptionnelles où vous allez faire plus de grands trajets pour les vacances, par exemple. On peut passer aussi à l'hybride. Ce qu'on propose nous aussi avec CarCloud, c'est l'abonnement où vous renouvelez chaque mois en fonction de votre usage et de vos besoins. Et ça peut correspondre à monsieur, à savoir, pendant un mois, il a besoin d'une voiture électrique, une Fiat 500 ou une Peugeot i208. Et puis après, derrière, il veut partir avec toute sa famille pendant un mois, il passe au-dessus sur un Jeep Compass, un SUV hybride rechargeable.
Et alors, dites
et
donc,
là, c'est parfait.
Comment ça se passe, Guillaume, avec... parce qu'un loueur, quand il achète ses voitures, vous avez des prix auprès des constructeurs. Est-ce que vous touchez les voitures un peu moins chères, celles que vous mettez à la location? Comment ça se passe après, quand vous avez fini de les utiliser? Parce qu'un loueur ne les utilise pas,
Très
longtemps.
Long. Ouais.
Comment ça se passe le côté caché, en fait, De l'iceberg.
Vous voulez connaître tous les secrets
Oui, oui, parce qu'on parle
Lolo,
vrai.
Lolo, elle est comme ça, elle veut tout savoir.
Toujours.
Tout savoir. Allez, on déballe tout. Non, effectivement, nous, Lysis, on est à la fois un loueur courte durée, puis on est aussi un organisme qui fait de la location en longue durée. Donc, on a effectivement, parce qu'on en a beaucoup des véhicules, des tarifs préférentiels, et on les fournit aussi à des tarifs préférentiels et flexibles auprès de nos clients. Lysis, c'est une marque de Stellantis, et on fait aussi partie du groupe FCA Bank. Donc, forcément, on a des avantages. Et derrière, on fait en sorte de fournir les véhicules au meilleur prix. Et à la fin de vie d'un véhicule sur un parc de courte durée, effectivement, il repart sur un parc d'occasion ou aussi sur peut-être des offres de véhicules d'occasion en longue durée. Bref, il y a toujours une deuxième vie pour un véhicule qui vienne de chez un loueur ou qui vienne de chez un particulier.
Ouais, moi j'ai entendu quand même hein, le témoignage de tous ceux qui nous appellent et qui sont satisfaits de la motorisation électrique. Voilà, ça, on en revient toujours au même. Hein, lorsqu'on achète une voiture un peu moyenne gamme électrique ou entrée de gamme, forcément vous n'avez pas un véhicule familial. Voilà, faut pas faire de fausses promesses. Vous n'allez pas partir en vacances avec votre voiture et traverser 700 km en voiture électrique, c'est pas vrai. Donc forcément, ça peut être soit un second véhicule, soit un véhicule urbain, et c'est assez exceptionnel. Après, voilà, il y a, et c'est ça qui était intéressant dans ce que j'ai entendu, je me disais, vous allez forcément peut-être revoir votre copie et garder des véhicules thermiques, parce que regardez ce qui se passe. Là, notre auditeur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, moi, quand je pars et que j'ai besoin d'un véhicule avec plus d'autonomie, je prends du thermique en louant une voiture. Si vous proposez que de l'électrique, ça va coincer.
On propose pour ce type de véhicule aujourd'hui ce qu'il y a sur le marché. Donc effectivement, il y a des véhicules électriques familiales d'une grande marque américaine comme Tesla qui peuvent paraître intéressantes, mais qu'on n'a pas nous aujourd'hui dans notre parc. Mais par contre, on peut proposer ce qu'on a directement dans notre parc et ce sur quoi on est, ceux avec qui on est partenaire, parce que c'est la même famille, c'est Stellantis, des véhicules Jeep en hybride rechargeable. Ça peut être aussi des véhicules Peugeot 3008 hybrides qui vont avoir un format un peu plus familial. Dans tous les cas, on est sur quelque chose qui se passe aujourd'hui avec des autonomies qui sont un peu plus réduites, effectivement, mais la technologie avance super vite. Donc demain, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura ces véhicules qui auront une plus grande autonomie en full électrique.
Et puis on aura l'occasion évidemment d'en reparler, parce que 2027, vous annoncez 100% de votre flotte chez vous, qui êtes loueur leader mondial, enfin leader, pardon, de la location de voitures en Italie.
Bientôt.
Il s'agit de l'EasyRent. Je vous le souhaite. Merci beaucoup Guillaume Lemouroux.
Merci à tous. Merci.
Côté, ça ressemble vraiment quand même à un vrai changement culturel. Hein. Ça y est, les voitures électriques arrivent aussi chez les loueurs et qui annoncent même 100% d'ici 4 à 5 ans. Waouh, c'est quand même dingue. Allez, dans quelques instants, on continue. Ça roule avec vous en ce dimanche soir. Et je vous propose de venir échanger avec Pierre Chasseret qui met sa casquette de DG de 40 millions d'automobilistes. Tout ce que vous avez envie de dire et d'échanger avec lui, c'est au 0826 300 300.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous voici arrivés à la fin de notre rendez-vous. Vous êtes peut-être au volant de votre voiture, en train de rentrer de week-end. Profitez-en bien, soyez prudents. Vous avez vu, ça y est, il fait nuit tôt, hein. On a commencé à... on a remis les feux, tout ça.
Mais ça a un autre charme. Il faut prendre ça en regardant toutes les jolies choses qu'on va pouvoir faire. Bon, moi ça va, c'est vrai que j'ai une petite cheminée. Donc
je parlais de la route. Où ça y est, la nuit arrive, c'est plus
c'est dangereux,
la même ambiance.
C'est plus dangereux.
Donc, soyez prudents.
Voilà. Changez les pneus.
Moi, je voulais vous dire juste ça. Soyez prudents. Bon, on arrive au moment où on échange avec Pierre Chasseret sur Sud Radio. Et tout de suite, on va le faire d'ailleurs avec Mathieu qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Mathieu.
Bon, qu'est-ce que tu fais Mathieu? T'es pas au collège?
Ah bah non, du tout, bonjour Laurent.
Ah non, c'est pas mon fils, donc ça va.
Un dimanche soir, Pierrot...
c'était pour la blague.
Alors, Mathieu, vous voulez échanger avec Pierre sur quel sujet?
Au sujet évidemment des automobilistes, moi je me considère vraiment comme une vache à lait un petit peu de l'État. Je fais à peu près 40 000 km de par mon métier par an.
Ouais.
Et c'est vrai que je réagis parce que j'ai reçu une amende récemment suite à mon départ dans le sud, hein, donc je suis passé par Lyon. Et c'est vrai que moi je suis prudent, je respecte vraiment les limitations et il y a vraiment des pièges. L'exemple type, et là je pense qu'il y a pas mal de monde qui emprunte cette route, c'est quand vous passez par Lyon et donc vous passez par, non pas le périphérique, mais vous passez quasiment au centre pour aller après direction Marseille ou le sud, il y a un passage entre 70 et 50 km/h. Là, je me suis fait avoir, alors que en plus c'était nuit, et c'est vrai que payer 90 euros et reperdre un point, qu'il est compliqué à récupérer par la suite. Voilà, moi je...
Ça sera 68 euros minoré 45. Alors j'entends bien. La grosse difficulté, vous avez été chopé dans une zone à 70 ou à 50?
Bah, du coup, 50, ça a passé de 50 à...
Ah non, bah c'est 135 euros. Minoré 90. Je suis désolé.
Oui, voilà, oui, c'est ce que je vous disais, ouais, 90. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que, en plus, quand je vois l'actualité, et là, le projet de loi de finances 2022, hein, donc sur le budget,
oui.
Et dont il prévoit, je ne sais pas si vous en avez parlé, une augmentation de manière drastique des amendes, hein, donc prévu 8,7 millions en 2022 et 13 millions en 2023, suite à la pandémie et au fait qu'à mon avis, bah voilà, il y a eu quand même beaucoup moins de circulation, notamment en 2020. On sent bien que c'est quand même du business pour finalement renflouer les caisses de l'État. Bon, en tant que citoyen honnête et, qui respecte la loi, c'est vrai que bon, on va dire, c'est une colère saine, mais ça m'agace fortement.
Vous savez quoi, Christophe, ce qui est bizarre, c'est quand on a posé le premier radar en France, tous les politiques voulaient être sur la photo parce que c'était populaire. Oui. C'est marrant, hein. Deux tiers des Français étaient favorables à la pose des radars. Les Français, en majorité, disaient mais non, ça sera pas pour nous, parce qu'en fait, c'est que pour les chauffards. Et puis maintenant, on est une vingtaine d'années en plus, hein, 18 ans, si je dis pas de bêtises, et on se rend compte qu'au final, bah, plus personne ne croit à cette arme de sécurité parce qu'on a fini par prendre tout le monde. Donc la proposition, elle va rejoindre celle que je comptais formuler, on en a déjà parlé, mais ça me paraît être une proposition essentielle qui suit ce que font nos voisins européens. L'idée, c'est d'appliquer une marge de tolérance sur les radars. Alors, j'entends, tout le monde est en train de bondir en disant « mais Chasseret est devenu fou, il y a déjà une tolérance ». Donc non, il n'y a pas de marge de tolérance en France, il y a une marge technique de pondération. Cette marge, elle est imposée par les fabricants du matériel pour couvrir les éventuelles erreurs de mesure. Et ensuite, pas de tolérance. Nos autres voisins européens font une marge technique, comme tout le monde, la même qu'en France, et à cela, ils ajoutent une tolérance qui est de 5% ou parfois en kilomètre heure, ce qui fait que grosso modo, si vous voulez être flashé en Angleterre sur une route limitée à 96, parce que là-bas ils n'ont pas de 80 kilomètre heure, eux, et ils ont moins d'accidents, eh bien vous êtes flashé à 111 kilomètre heure. Autant vous dire qu'à 111 kilomètre heure, ça gêne personne. Vous pouvez pas dire que vous avez été piégé, vous le saviez, donc vous avez joué, vous avez perdu. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'appliquer une marge de tolérance qui ferait que vous, je vous ai pas demandé, mais vu le montant de l'amende, c'est un petit excès de vitesse entre donc, alors petit excès de vitesse en France, c'est entre 1 et 19, c'est ça?
Oui, oui, je crois que j'ai été vitesse retenue à 61.
Voilà, donc ça veut dire globalement, chez nos voisins européens, potentiellement, vous seriez entré dans une marge de tolérance, qui fait que derrière, on n'aurait peut-être pas verbalisé. De plus, la pose du radar en soi. Là où on a un problème en France, c'est quand vous avez une zone 70-50. Il y a des automobilistes qui, de bonne foi, comme vous, bah, vous ne saviez plus trop quelle était la limitation, vous étiez en train de décélérer. Et là, sur le côté, vous avez le joli joujou radar. Et le joli joujou radar, il vous prend alors que vous étiez en train de décélérer. C'est débile. C'est complètement stupide. On ne prend pas des gens dangereux. On est en train de prendre des gens qui sont fait avoir parce qu'on abaisse et on change de limitation toutes les 20 secondes. Donc je pense qu'il faut redonner de l'union à ce pays, moi, et que l'union, ça passe par une cohérence des limitations de vitesse.
Pierre, je vous ai souvent entendu parler avec 40 millions d'automobilistes d'un combat que vous menez depuis qu'on se connaît, donc ça fait à peu près 8 ans, que au moins les premiers 0 à 10 km ne soient pas...
Ben non, c'est évident.
Parce que de 10 à 20, si. Enfin, je veux dire, quand on est limité à 90 et ou
dans
les jolis.
Mais il y a un double problème.
Mais de 0 à 10.
Le 0 à 10, déjà, il faut qu'il passe à l'as comme dans tous les autres pays européens.
Mais alors, du coup, excusez-moi, mais ça veut dire que si on passe à l'as le 0 à 10, tout le monde, y compris moi, on va se dire bon, alors c'est limité à 90, je vais rouler à 100.
Eh ben non, parce que dans le comportement, on s'aperçoit, il y a déjà eu des tas d'exemples qui ont été faits en Europe, notamment que ce soit au Danemark ou ailleurs. Lorsque vous avez une limitation de vitesse qui change, le comportement, lui, ne change pas. D'ailleurs, ça me rappelle ce qui s'est passé lorsqu'on a abaissé les vitesses à 80 km/h sur les routes nationales. Les vitesses moyennes n'ont quasiment pas évolué. Les vitesses moyennes n'ont pas baissé de 10 km heure, parce qu'on a baissé de 10 km heure la limitation. En fait, le cerveau humain fonctionne à risque constant, et 85% des usagers roulent en fonction de conditions de circulation qui leur permettent un comportement de sécurité. Donc grosso modo, quand tu changes les panneaux, Lolo, tu changes pas le comportement. Par contre, l'idée, c'est de placer les gens dans la réglementation et pas en dehors.
Mais alors du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose, Mathieu, vous qui pourrez... vous allez dans le sens où effectivement de 0 à 10 km/h au-dessus, à la limite, je me prends une amende, mais pas, on m'enlève pas un point. C'est quelque chose qui pourrait vous convenir ou pas ?
Oui, alors si vous pouvez en plus enlever l'amende, ce qui permettrait...
qui peut peut le moins.
Voilà, mais oui, déjà, enfin, en fait, voilà, c'est retrouver du bon sens, parce que c'est vrai que, voilà, moi, j'ai pas un comportement sur la route qui est dangereux, hein, honnêtement, surtout si vous voyez l'exemple que je vous donne, voilà, vous passez de 70 à 50... sur un 4 voies avec on voit même pas pourquoi ça a baissé de 70 à 50 notamment dans cette partie, mais il y a de nombreux exemples. D'ailleurs les 80 km/h, bon bah voilà, on est passé de 80 à 90, finalement il y a des départements qui ont survenu,
sont revenus,
la confusion et
ça c'est vrai, c'est dingue.
Et donc voilà, oui, retrouver du bon sens et prendre des exemples de pays européens, ça me semble très bien, surtout que moi en plus, pour parler sur l'anecdote, mais voilà, moi c'est le fou en rogne. C'est que je pense que c'est plus les locaux, par exemple sur la région lyonnaise, mais il y a plein évidemment partout en France. C'est après quand vous voyez que dès lors qu'ils passent le radar ça accélère de fou, et en plus ça double sur la droite, etc. Enfin, vous voyez, ça c'est des.
Alors après c'est voilà, c'est ça, Mathieu.
Qui
mais
sont
ça,
jamais, qui sont jamais alors, vraiment jamais
coup,
sanctionnés.
Pour conclure, parce que malheureusement l'émission se termine, c'est ce que 40 millions d'automobilistes veut présenter dans le livre blanc pour les candidats à la présidentielle, c'est une police de la route, un retour d'une police de la route pour genre de comportement.
Police de la route pour conclure, traiter, Pierre, pour traiter les comportements dangereux, et puis derrière un audit de l'implantation des radars, parce que ça peut plus durer, les radars qui sont cachés derrière des buissons, derrière des panneaux, derrière une sortie de tunnel. Stop. Redonnons de la cohérence et de l'union dans ce pays. Il faut mettre en place des mesures acceptables pour tous.
Et on dit ça au moment où ils vont libérer les voitures privées avec les radars cachés. C'est pas mal non plus. Merci beaucoup Mathieu d'être intervenu. Faites comme Mathieu pour dimanche prochain. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au 0826 300 300 et venir donner votre avis sur ce qui se passe sur les routes de France et sur la politique qui est menée pour ou j'ai pas contre la sécurité routière, évidemment non, mais voilà, celle que vous ne comprenez pas en tout cas. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve dimanche prochain.
Allez, soyez prudents sur la route, nous on se retrouve la semaine prochaine avec Lolo Perrault comme d'hab.
Ça roule, bon dimanche, bonne soirée surtout.